Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Plus d'un an après les grandes manifestations de l'opposition en Turquie et avant les élections présidentielles, l'esprit de fronde du parc Gezi est-il toujours vivant ? Vivre loin du bruit et de la fureur de Moscou, c'est le choix de certaines familles russes, les nouveaux urbains. Et une visite du système solaire à l'échelle humaine dessinée par l'Université de Stockholm, voilà quelques-uns des meilleurs moments d'Accent d'Europe. Les meneurs de la révolte contre le gouvernement turc il y a un peu plus d'un an savent à quoi s'attendre lors de leur procès qui s'est ouvert en juin et qui reprendra en octobre. Ils ont dû répondre de l'accusation d'organisation criminelle. Ils encourent 13 ans de prison. Le Premier ministre Erdogan sera de son côté candidat aux élections présidentielles en août. Est-ce dire que l'esprit de fronde du parc Gezi est enterré ? Ce mouvement anti-parti n'avait pas vocation à s'inscrire sur la carte politique. Mais que reste-t-il de cette contestation ? C'est le reportage à Istanbul d'Anand Lauer.
Le mot Gezi, il y a un an, n'évoquait pas grand-chose pour la plupart des Turcs et absolument rien pour le reste du monde. Et puis, le soir du 27 mai 2013, quand des bulldozers sont entrés dans le parc pour en déraciner les arbres, une poignée de militants se sont interposés. C'était le début de Gezi, le nom d'un mouvement gigantesque, un moment inédit dans l'histoire de la Turquie, 20 jours de manifestations, de colère collective contre le gouvernement et de violences policières qui ont endeuillé le pays. Gezi, le parc, est toujours là. Mais qu'en est-il de Gezi, le mouvement de contestation ? Pour Tayfun Karaman, président de la Chambre des urbanistes d'Istanbul, un opposant de la première heure, il reste de cette période ce qu'avec beaucoup d'autres, il appelle l'esprit de Gezi.
Gezi vit encore dans chaque manifestation. Ne pas hésiter à protester contre l'injustice, quelle qu'elle soit, c'est ça l'esprit de Gezi. Désormais, à chaque manifestation, Gezi est dans tous les esprits. C'est devenu une référence. En ce sens, on peut dire que le mouvement a atteint son objectif, qu'il influence la politique.
Pour Elise Massikar, directrice de l'Observatoire de la vie politique turque à Istanbul, Gezi n'a pas changé grand-chose, en tout cas au premier coup d'œil. La très large victoire du parti au pouvoir aux élections locales de mars semble confirmer cette idée.
Les équilibres, on va dire, en termes de voix, n'ont pas beaucoup bougé. Les partis se sont pas trop fait l'écho des revendications qui avaient été exprimées pendant Gezi. Même les partis qui étaient relativement présents à Gezi n'ont pas vraiment repris Gezi à bras-le-corps et n'en ont pas fait quelque chose. Finalement, il n'y a pas eu d'effet visible de Gezi sur la politique partisane, locale, classique.
Mais à y regarder de plus près, il y a bien un avant et un après Gezi. Pour Elise Massikar, cet épisode a créé une génération politique.
Génération politique au sens qu'utilisent les sociologues, c'est-à-dire une génération qui est créée par un événement. C'est comme on peut dire les 68ards, et maintenant on dit les post-68ards, mais je pense que Gezi a mis ensemble, en fait, dans les représentations des gens qui, auparavant, n'avaient pas d'expérience spécialement politique ou peu marquante et ne se parlaient pas. Et donc a créé des phénomènes d'identification assez massifs qui sont pas très visibles mais qui ont des effets à long terme en fait.
Gökçin Özkoray, 26 ans, engagé à gauche depuis des années, explique en effet que Gezi l'a réconcilié avec sa génération.
Je pensais que ma génération était relativement docile et pacifisée par la culture de la consommation. Les Turcs en qui je n'avais pas beaucoup de confiance sur le plan politique ont pu prouver qu'ils étaient capables de se révolter pour saisir leur liberté et défendre leurs droits.
Pour cette jeunesse qu'on disait passive, Gezi a donc agi comme un électrochoc. Murat Paker, psychologue clinicien, engagé dans un parti écologiste, parle même de Gezi comme d'un antidépresseur.
Pour ceux qui y ont participé, Gezi a été un moment de mobilisation, d'excitation, d'action collective. Ils se sont retrouvés avec de parfaits inconnus, des gens très différents, malgré les risques, la répression. Et ils se sont dit, on peut faire quelque chose. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose.
Espoir chez ceux qui ont participé à cette fronde politique, crainte de l'autre côté, dans le camp du pouvoir. Car si Gezi ne semble pas l'atteindre dans les urnes, le gouvernement et son chef, Recep Tayyip Erdogan, sont loin d'agir comme si Gezi n'avait pas existé. Pour Tayfun Karaman, président de la Chambre des urbanistes, Il est clair que le pouvoir fait tout pour empêcher un nouveau Gezi.
J'ai fait partie de ceux qui, pendant Gezi, ont rencontré le Premier ministre, soi-disant, pour dialoguer. En fait, nous avons été confrontés à un mur, à un pouvoir qui ne cherchait ni à dialoguer, ni à comprendre. Et cela continue. La seule différence, c'est que depuis Gezi, le pouvoir s'est durci. Il a recours à toujours plus de violence pour éteindre la moindre étincelle de contestation.
Une violence telle que beaucoup, parmi les anciens de Gezi, se demande si cette fronde a servi à quelque chose. Amertume, lassitude et déception pointent chez certains, comme Gökçin Özkoray, le jeune manifestant, qui redoute que Gezi soit condamné à la stérilité.
Il y a le danger de la nostalgie vis-à-vis de cette période. Je vois un manque de motivation pour la poursuite de cette résistance. La seule opposition vis-à-vis du Premier ministre est très insuffisante. Ce qui le condamnait à la stérilité, c'était un pur engagement vis-à-vis du Premier ministre uniquement, sans construire un programme politique en soi.
Construire un programme politique, une gageure pour un mouvement qui avait justement une dimension anti-partisane très forte. Aujourd'hui encore, personne ne peut parler au nom de Gezi et les principaux groupes qui ont fait ce mouvement ne sont même pas d'accord sur l'attitude à adopter pour ce premier anniversaire. Quant au Premier ministre, leur cible principale, Gezi ne l'a pas non plus freiné dans ses ambitions politiques.
À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoires.
Moscou, 12 millions d'habitants, une ville frénétique, souvent victime d'une circulation automobile omniprésente et qui, si elle offre de belles opportunités professionnelles, laisse peu de place aux familles. Ce sont donc bien souvent des parents qui choisissent de quitter la capitale pour aller tenter leur vie à la campagne. Les rurbains russes, c'est le reportage dans l'oblast de Kostroma d'Étienne Bouche.
Pour arriver jusqu'à Ougori, il faut compter une douzaine d'heures de train au départ de Moscou, puis emprunter une route particulièrement mauvaise sur 40 km. Les véhicules sont contraints de slalomer prudemment pour éviter les innombrables nids de poules. Arrivé dans le village, une église qui attend d'être retapée et quelques maisons de bois. C'est ici que vit Lyudmila. Il y a 8 ans, quand elle a pris sa retraite, Lyudmila a découvert un peu par hasard cet endroit et a décidé de ne plus le quitter.
C'était devenu difficile pour moi de vivre à Moscou. Il me fallait 2h30 pour aller au travail, vous imaginez? Je passais 5 heures par jour dans les transports, je n'avais plus de vie. Le travail, le trajet, je ne voyais plus la lumière du jour, je ne voyais plus rien. Quand je suis arrivée ici, j'ai pris conscience que je n'avais jamais cessé de bouger et je me suis dit, ça suffit, il est temps de se poser. Léna, qu'est-ce que tu penses de ma décision d'avoir quitté Moscou pour venir vivre ici?
La campagne russe a subi le déclin du secteur agricole et ils sont nombreux à l'avoir quitté pour rejoindre les grandes villes. Dans ces espaces dépeuplés, la vie semble condamnée à disparaître. Pour Anatoly Seclair, le mode de vie rural traditionnel est révolu. Pourtant, ce grand gaillard n'exclut pas un retour à la terre, mais sous une autre forme. Il y a 5 ans, il a rejoint avec femme et enfants une communauté de néo-ruraux dans la région.
J'ai toujours rêvé de fonder une famille, mais à Moscou, c'est très dur d'élever des enfants. Quand tu penses au bien-être de l'enfant et que tu vois les conditions dans lesquelles il vivra, et il n'est pas seulement question d'écologie, il y a aussi l'insécurité. Les mégapoles sont des lieux dangereux pour les enfants.
Pas très loin de la maison de Lyudmila, Yuri a chaussé ses bottes pour marcher jusqu'à Lunja, affluent local de la Volga. À première vue, difficile de croire que cet amoureux de la terre est en fait professeur dans une école réputée de Moscou. Il s'y rend régulièrement, mais préfère résider à la campagne avec sa femme et ses 4 enfants.
Parce qu'ici, c'est bien, c'est propre, calme, paisible. Ici, il y a la rivière, les fruits des bois, les champignons. Ici, on vit comme on l'entend. On a nos pommes de terre, saines, que l'on cultive pour nous. J'achète ma viande chez un ami fermier. On m'apporte du lait qui vient directement de la traite et les œufs du poulailler. Tout ça vient de notre communauté.
Youri a pris l'habitude de faire venir ses étudiants, une manière de leur ouvrir les yeux sur l'autre Russie, celle qui vit loin de Moscou.
Un de mes étudiants m'a dit ce matin à 6h, je suis sorti cette nuit et je suis resté une heure dehors. Je n'avais jamais vu un ciel pareil, jamais entendu un tel silence.
Ils ne sont pas tous aussi enthousiastes, mais Youri en est convaincu. Plus vieux, ils reviendront. Mais les prédictions de Youri sont encore éloignées de la réalité. L'exode urbain reste marginal, l'absence de travail et l'isolement géographique freinant les candidats à la vie champêtre.
Son handicap aurait dû lui barrer définitivement les portes de la musique. Sainmark est sourd et muet, mais il vient de sortir en Finlande son 3e album de rap. Il compose et écrit grâce au son de basse qu'il peut sentir. D'autres rappeurs chantent ses textes et lui-même se produit en langue des signes, histoire d'un parcours atypique signé Pauline Curté.
Des cheveux blonds, un regard perçant, grave. Dans les clips de ses chansons, Sainmark décrit ses paroles en langue des signes d'un air volontaire, résolu. De la volonté, il lui en aura fallu pour arriver à ses fins. Qui aurait cru qu'en quelques années, un garçon muet puisse sortir 3 albums de rap ? Dans le dernier en date, Sainmark signe en langage américain et non finnois comme c'était le cas jusqu'à présent. Une façon pour lui de mieux se faire connaître à l'étranger alors que son art commence à passer les frontières de la Finlande. Depuis tout petit, Sainmark, qui est né dans une famille sourde et muette, a traduit des chansons en langue des signes. S'il s'est lancé dans le rap, c'est parce qu'il a la capacité de ressentir les sons de basse très lourds, typiques de ce genre musical. C'est aussi parce que le rap lui permet d'exprimer sa philosophie. Dans ses chansons, il insiste sur le fait que la langue des signes n'est pas qu'un moyen pour les sourds-muets de se faire comprendre, que cette langue représente aussi une culture à elle toute seule. Pour montrer la complexité de cette culture, il a même composé une chanson pour son dernier album en langue des signes de Chine du Sud, dans laquelle il parle de violation des droits de l'homme. En Finlande, sa célébrité a permis de mieux faire connaître la condition des sourds-muets. Il a même été nommé en 2010 ambassadeur des droits des personnes handicapées pour le pays nordique. Et le rappeur n'exclut pas de quitter la musique dans quelques années pour se lancer en politique. Clairement, Sainmark n'a pas fini de faire les gros titres.
Allez, on prend de la hauteur et on visite une carte du système solaire à l'échelle humaine, ou plutôt à l'échelle suédoise. L'université de Stockholm vient en effet de produire une maquette au 20 millionième. Et si le système solaire était grand comme la Suède, voilà qui donne une idée très concrète des distances entre le Soleil et les planètes. Visite interplanétaire signée Benoît Derrier.
Dans cette maquette 20 millions de fois plus petite que le système solaire, le Soleil est représenté par la salle Omnisport de Stockholm, appelée le Globe, un immense bâtiment sphérique de 100 mètres de diamètre qui accueille les matchs de hockey ou des concerts de stars internationales. L'édifice est l'un des symboles de la ville, immanquable à des kilomètres à la ronde. À cette échelle, 1/20 millionième, notre planète Terre ne mesure que 65 cm de diamètre. C'est une boule bleue située au musée d'histoire naturelle à 7 km du Globe. La Lune, qui mesure elle 18 cm de diamètre, est présentée dans un autre endroit du musée. Les autres planètes telluriques, Mercure, Vénus et Mars, sont également situées à Stockholm, respectivement à 3, 5 et 12 km du globe, dans des musées ou des centres commerciaux. Pour les planètes gazeuses, par contre, les distances se comptent en dizaines, voire en centaines de kilomètres. Ainsi, Jupiter est un parterre de fleurs devant l'aéroport d'Arlanda, joli symbole, à 40 km de Stockholm. Saturne est dessiné à même le sol devant l'ancien observatoire André Celsius, l'astronome suédois, à Uppsala, à 73 km du globe. Uranus et Neptune sont respectivement situés à 143 et 229 km de Stockholm, dans les villes de Gävle et Söderhamn, en remontant vers le nord le long de la mer Baltique qui sépare la Suède de la Finlande. L'objet le plus lointain symbolise la limite de l'héliosphère, c'est-à-dire la zone d'influence des vents solaires. Il est placé à Kiruna, l'une des villes les plus septentrionales de Suède, au nord du cercle polaire, à près de 1000 km de Stockholm. À cette latitude, si vous levez les yeux, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un phénomène justement produit par les vents solaires, une aurore boréale.
May I have your attention, please?
Et on retrouve Vincent Théval pour notre chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Vous nous faites découvrir un groupe bien ancré en Angleterre.
Hot Fellows Casino, c'est un groupe anglais basé à Brighton, emmené par un unique auteur-compositeur, le dénommé David Bramwell, qui pour son nouvel album, The Water Between Us, s'est inspiré d'une vieille obsession pour deux villages qui ont été noyés sous les eaux pour les besoins de la construction du barrage de Lady Bower dans le Derbyshire. On peut voir d'ailleurs sur la pochette du disque un clocher dépasser des flots. David Bramwell est donc parti de cette obsession pour écrire un album où le thème de l'eau, de la mer et des villes côtières est récurrent. Les textes sont magnifiques, on y lit en creux l'histoire d'un amour perdu. C'est flagrant sur Stone Riders, où l'équilibre entre arrangement acoustique et synthétique est simplement parfait. Down to the edge they go. The Stone Riders are coming home to borderlands of and bone. The Stone Riders are coming home to silent tears of standing stone. The poacher on the cypress road has a heart.
C'est le morceau Stone Riders des Hot Fellows Casino. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Accent d'Europe qui passe en mode été à partir d'aujourd'hui avec une sélection de nos meilleurs moments, reportages et chroniques à retrouver aussi bien sûr sur notre site rfi.fr.